Eh bien, je vais vous transmettre les salutations de mon épouse, mais aussi les salutations, eh bien, de nos frères et de nos sœurs du Congo. Ils se réjouissent parce que le 19 juillet, nous prenons l'envol pour Kinshasa durant tout le mois et nous rentrons vers le 27 août, du 19 juillet au 27 août. Alors, bien sûr, je vous mets déjà, et je vous ai déjà mis dans le passé, à cœur de prier pour cette mission. Il y aura des séminaires pour les pasteurs, pour les futurs pasteurs, pour, eh bien, les évangélisations dans les églises. Il y aura aussi, eh bien, des visites dans les orphelinats. Quand vous avez vu, il y a X temps, des vues sur les orphelinats, nous allons voir d'autres orphelinats, afin que le Seigneur, eh bien, les aide, les encourage. Priez pour, eh bien, toutes ces personnes qui ont cette responsabilité de conduire des enfants de bas âge, hein, jusqu'à 18 ans, et après, bien sûr, soit ils restent dans l'orphelinat ou ils quittent l'orphelinat avec un travail pour pouvoir, eh bien, se nourrir. Ce n'est pas comme ici, il n'y a pas de sécurité sociale, mais il y a une chose, c'est que l'Éternel pourvoit. Alors, je veux que vous soyez des partenaires associés avec moi. Et là où je serai, eh bien, je transmettrai vos salutations. Amen. Oui ou non? C'est bien. Et c'est vrai que, bon, pour eux, l'Alsace, je dirais, ben, vous voyez la France. Alors, c'est vrai que certains ont des maps mondes, hein. Et je dirais, voilà, ça c'est la France, ça c'est Paris, ça c'est Strasbourg, et nous, ça c'est Mulhouse, et Saint-Louis, c'est tout à côté. Il y a la Suisse et l'Allemagne. Amen. Afin qu'ils puissent avoir un peu, n'est-ce pas, eh bien, l'idée de où je viens et où sont les églises qui prient, qui intercèdent, qui sont des collaborateurs. Nous sommes des maillons, hein. Alors priez, frères et sœurs, afin que du 19 au 27 août, le Seigneur, eh bien, puisse agir dans tous ces programmes. J'ai déjà reçu les programmes. Et vous savez, quand vous êtes là-bas, eh bien, vous êtes pressé comme un citron, hein. Plusieurs réunions dans la journée, plusieurs séminaires, le matin, l'après-midi et le soir. Mais le Seigneur est celui qui renouvelle nos forces physiques, morales et spirituelles. Amen! Voilà. Alors c'est vrai que je remercie le Seigneur pour les chants. Même si je ne comprends pas le premier chant, tout je sais que Dieu est bon. Même si je ne comprends pas tout, je sais que Dieu mène à bien toute l'œuvre qu'il a voulu pour moi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième chant, c'était quoi ? Eh bien, je suis né pour influencer. Amen. Je suis né pour influencer. Il y a l'esprit du monde qui veut nous influencer. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit vivant en nous nous donne, eh bien, d'être des hommes et des femmes ayant l'autorité du ciel. Ce n'est pas au diable de nous mener, mais c'est à nous de conduire le diable hors de toutes ces choses qui sont nuisibles. C'est pour cette raison que l'ennemi, eh bien, attaque l'Église de Jésus-Christ. Non pas les dominations, mais l'Église, le chrétien qui veut vivre sous la souveraineté du Saint-Esprit. Nous sommes là pour influencer. Et un autre chant qui nous dit quoi ? Je suis un conquérant. Ouh ! Je suis un conquérant. Et c'est vrai que Dieu aurait pu choisir des anges, mais il t'a choisi. Il a porté les regards sur toi. Il n'a pas dit, eh bien, tu es minable, tu es insignifiant, tu n'arriveras jamais à rien. Non ! Le Seigneur t'a choisi pour que tu sois son serviteur, sa servante. Alors bien sûr, souvent on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai de plus Rien. Mais c'est lui qui va te fortifier. C'est lui qui va t'équiper. C'est lui qui va te donner tout ce dont tu as besoin. C'est à lui de venir. Et c'est pour cette raison que chaque jour, il est là. Alléluia. Chaque jour, il veut pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Alors, frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a quelque temps, nous avons vu quoi ? L'exemple de la foi d'Abraham. Et ce matin, c'est vrai que durant la semaine, j'ai envoyé à mon frère Ruben entrer dans le cursus de Dieu. Ouf ! C'est tout un programme, hein ? Le cursus de Dieu est. Et c'est vrai que cela est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, tout ce qui nous environne a été créé par lui. Dieu a mis toute son attention sur chacune de ces choses. Même une fourmi, frères et sœurs, même une araignée. Il y a des gens qui ont peur des araignées. Hein? Mais même une araignée, Dieu a mis sa science. Vous avez déjà vu le travail d'une araignée ? Elle n'a pas de compas, hein ? Elle n'a pas de niveau, elle n'a pas de décamètre, tout ce que vous voulez. Mais quand vous voyez qu'elle va tisser sa toile, quelle symétrie, hein ? Eh ! Ouais. Elle prend son temps. Bien sûr, vous pouvez l'écraser. Mais quand vous la regardez travailler, moi je suis émerveillé. Si Dieu, frères et sœurs, a mis tant d'amour et de sollicitude et d'attention vis-à-vis de cette petite bestiole, à combien plus forte raison nous, ces créatures, parce que nous vivrons éternellement. Alléluia! Amen! Je vivrai éternellement. Est-ce que tu en es certain de cela? Le corps, bien sûr, retourne à la poussière, mais ton âme, ton esprit retourne à Dieu. Et ça, frères et sœurs, rien ne peut l'arrêter. C'est pour cette raison que les uns seront dans les tourments éternels et d'autres seront dans la félicité éternelle où ils verront Dieu face à face. Si Dieu a mis tant d'attention pour cette petite bestiole, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de chacun d'entre nous qui maintenant sommes ses enfants bien-aimés? Amen. Alors c'est vrai qu'entrer dans le cursus de Dieu, c'est d'être à sa disposition. C'est vrai que nous avons une volonté, c'est vrai que nous avons notre caractère, c'est vrai que nous avons nos vues, c'est vrai que nous avons nos impulsions, nous avons nos sentiments. C'est vrai, quand on n'est pas de bois, on n'est pas une chaise, nous sommes un être vivant qui peut dire oui ou non à Dieu. On est libre de choisir, d'entrer ou de dire, « Oh, ben, Seigneur, là, je vais réfléchir. Là, je vais, attendre. Certes, la vie chrétienne, c'est une aventure. La marche avec Jésus, c'est une aventure, c'est un exploit. Parce que chaque jour, le Seigneur veut te renouveler. Afin que le jour J, tu sois prêt. Vous savez, frères et sœurs, les gens dans le monde sont intelligents. Hein? C'est pour cette raison que Jésus dira. Les gens de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Regardez nos sportifs, ils se préparent parce que dans quelque temps, il y aura les JO. Croyez-vous que les sportifs sont sur des chaises longues en disant « On attend le jour J, hein, et on va bien siroter notre sirop à la menthe, etc. » Non, il y a les préparations, il y a le coach, il y a l'entraîneur qui est là tous les jours, afin de pouvoir leur donner cette impulsion, de pouvoir les entourer, l'enthousiasme de pouvoir dire, eh bien, allez, va encore plus, essaye de te dépasser afin de pouvoir avoir, eh bien, cette médaille, que tu puisses être sur le podium, non pas le troisième, mais le premier. Essaye. Et alors, bien sûr, ce sportif fera tout. Et frères et sœurs, aujourd'hui, eh bien, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en vacances. Hein. Le Saint-Esprit travaille parce qu'il sait que le moment, eh bien, J ou H arrivera. Arrivera. Et le Saint-Esprit veut que tu sois, eh bien, prêt, veillant et priant. Et cela, frères et sœurs, doit nous stimuler. Avec tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, personne ne pourra dire qu'il ne le savait pas. Parce que ce sont des signes annonciateurs. Jésus dira, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête. Ça ne veut pas dire la tête hein, pour marcher, non. Mais redressez-vous intérieurement, saisissez de nouveau, eh bien, cet esprit de vie, cet esprit qui, eh bien, vous donnera davantage de l'appétit de la parole de Dieu, de la méditation, de la prière, de la louange. Entrez dans le cursus de Dieu. Et c'est vrai que Dieu a choisi Abraham. Il y a quelque temps, je vous ai parlé de cet homme Abraham dans le livre de la Genèse. Je ne vais pas y revenir, mais je peux vous lire quelques passages. C'est que Abraham était, n'est-ce pas, avec ses parents dans le chapitre 12. Il était bien. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la terre et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et bien sûr, Lot partit avec lui, etc. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous les biens, etc., etc. Nous voyons, frères et sœurs, que l'âge pour Dieu n'a pas d'importance. Souvent on dit, oh, je suis trop vieux. Oh, j'ai mal au rein, j'ai du rhumatisme. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. C'est vrai. C'est vrai. Mais rien ne t'empêche de prier. Vous savez, quand je fais des visites, c'est nos frères et nos sœurs âgées. Ils me disent, pasteur, moi, je ne peux plus faire comme vous, hein, distribuer des flyers. C'est vrai. Ils ont l'âge. Mais je dis, mon frère, ma sœur, tu peux être à genoux en train de prier pour ceux qui sont à l'extérieur. Ils sont au combat, toi tu es à l'arrière. Tu prépares la nourriture. Frères et sœurs, c'est vrai. Et ça, j'invite les jeunes à être armés, d'y aller, d'être invincibles, d'être des conquérants. À 75 ans, Dieu appelle Abraham de sortir de son pays et de partir dans le lieu que Dieu va lui montrer, le cursus de Dieu. Allez, maintenant, tu viens avec moi. Et Dieu donne ses promesses. Mais pour entrer dans ses promesses, il faut le suivre. Souvent, nous, on veut recevoir sans rien faire. C'est pas vrai? Vous savez que le jardinier, s'il veut recevoir des carottes, il faut qu'il sème la semence de carottes hein, ou de salade. Mais s'il ne sème rien, il n'aura rien du tout. Il y aura des mauvaises herbes. Souvent on dit, oh, j'ai pas semé des mauvaises herbes. Et le diable essaye de semer toujours l'ivraie. Il essaiera. Mais frères et sœurs, quand il y a la bonne semence, les deux choses vont pousser. Mais Dieu veille sur sa parole. Amen.
car sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et elles s'accompliront si tu es fidèle pour toi. Et Abraham, eh bien, est parti. Il a plié bagage et allez, il est parti. Et bien sûr, il a élevé un autel, Bethel, qui veut dire maison de Dieu, etc., etc. Et nous voyons, frères et sœurs, que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans le chapitre 22 du livre de la Genèse. Des années ont passé. Abraham prend de l'âge. Souvent, c'est vrai, Seigneur, ce que tu m'avais donné, je ne le vois pas encore s'accomplir. Et vous savez, frères et sœurs, que le diable essaie de nous dire, mais cela fait X temps qu'on parle du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement, et ce n'est pas encore le moment, tu as le temps. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que, frères et sœurs, dans ce temps-là, Dieu veut te former. Parce que s'il venait, est-ce que tu serais pris ou prise ? Dieu use de patience afin que personne ne se perde, mais un moment viendra où, eh bien, la trompette sonnera. Et dans le chapitre 22, bien sûr, il y a la naissance, eh bien, d'Ésaü. Il y a aussi la naissance d'Isaac. Et nous voyons, eh bien, frères et sœurs, qu'il y a eu conflit. Il y a eu, c'est vrai, que dans nos vies, eh bien, des hauts et des bas. Mais chaque fois, Abraham a reconnu. Et la Bible nous dit, reconnais seulement où tu es. Pour Israël, c'est vrai, reconnais. Cela veut dire quoi, reconnaître ? Cela veut dire, eh bien, mettre notre orgueil, notre prétention sous nos pieds. Seigneur, c'est vrai que j'ai fauté. C'est vrai, Seigneur, j'ai perdu le zèle de ta parole. C'est vrai, Seigneur, je ne suis plus comme avant le jour de ma conversion, le jour où je me suis engagé avec toi. C'est vrai. Seigneur, avec le temps, j'ai pris mes aises. J'ai pris, eh bien, mon assise. Je me suis peut-être senti meilleur que les autres. Mais Seigneur, devant toi, que suis-je ? Que suis-je ? Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas nos années de conversion, mais ce sont nos années de fidélité à sa parole. C'est cela qui a de l'importance. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance, dit Jésus à une église dans le livre de l'Apocalypse. Je te garderai au jour de, eh bien, de l'épreuve, de la persécution, etc., etc. Parce que tu as gardé. Gardons cela. Et là, eh bien, Dieu va plus loin. Parce que c'est vrai que dans les années, frères et sœurs, que Abraham, bien sûr, son nom a été changé, hein, parce que Dieu a dit, ce n'est pas au travers de ta servante qu'il y aura une postérité, mais c'est au travers de ton épouse, Sarah, qui, eh bien, il y aura une postérité, c'est vrai. Mais nous voyons que cet homme, eh bien, à un moment, a eu une faiblesse. Ça peut nous arriver à tous. À tous. Mais Abraham a reconnu. Et au temps voulu. Eh bien, frères et sœurs, la promesse que Dieu avait dit à 75 ans à Abraham s'est accomplie. 25 ans plus tard. Ouh. Abraham avait 100 ans, 99, 100 ans. Ouais. Il crut. Et dans le cursus de Dieu, Dieu va plus loin. C'est que Dieu va demander, eh bien, de l'apporter. Et Abraham avait cette foi, cette conviction que ce Dieu qu'il servait, eh bien, pouvait même le ressusciter. Alléluia. Il savait que, eh bien, malgré ce que Dieu lui demandait, qui était au regard humain, incroyable, impossible,
était possible pour lui parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Toutes choses. Et dans ce chapitre, nous avons vu, et je ne vais pas m'attarder, c'est que dans ce chapitre 22, il pourra dire, voilà, hein, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, fendit le bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham savait où Dieu allait le conduire. Le cursus de Dieu, Dieu nous le révèle par le Saint-Esprit. Il savait. Dans ce verset, eh bien, il y a quoi ? Il y a l'empressement. Il se leva de bon matin. Abraham, c'est un serviteur, on pourrait dire, docile, obéissant, qui, eh bien, va faire ce que Dieu lui demande. Il va faire tout afin que le moment H, eh bien, la gloire de Dieu puisse se manifester. Il se lève de bon matin. Il prépare ce serviteur et ainsi que son fils. Deuxièmement, il y a quoi ? L'exactitude. Dans l'obéissance, il fera tout ce que Dieu lui avait demandé. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance. Et c'est vrai, obéir. Dieu pourra dire, au travers de Samuel, concernant, eh bien, Saül, l'obéissance. Quand Saül était petit, quand Dieu l'avait appelé à son service, Saül, eh bien, était à l'écoute de ce que Dieu disait au travers de son prophète, mais avec les victoires qu'il a remportées sur les ennemis, petit à petit, il a pris de l'ampleur. Petit à petit, il s'en est enorgueilli. Petit à petit, eh bien, il a fait congé de Dieu. Et même, il s'est érigé un monument. Vous savez, frères et sœurs, c'est vrai, l'orgueil précède la ruine. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Dieu avait dit à Saül, ce peuple sera dévoué par interdit. Vous le lirez. Et Dieu va dire à Samuel, je rejette cet homme. Et bien sûr, Samuel va pleurer parce qu'il avait beaucoup d'attention, beaucoup d'amour vis-à-vis, eh bien, de ce jeune roi. Et quand il va le voir, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y allait bellement, etc., etc., qu'est-ce que tu as fait ? Oui, mais tu comprends, c'était pour honorer le peuple n'a pas voulu, etc. Ce que Dieu dit, il faut le faire. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette. Et nous voyons, eh bien, c'est que eh bien, cet homme est devenu, qui a connu de nombreuses difficultés, et David a été appelé. Nous voyons aussi un autre exemple de Noé. Noé, dont Dieu va lui dire, parce que la terre déjà au temps de Noé était remplie de méchanceté, etc. Le cœur de l'homme était toujours porté vers ces choses négatives et Dieu dira, voilà ce que je vais faire, construis-toi une arche. Mais au temps de Noé, ils n'ont jamais vu de bateau. Hein. Ouais. Ouf, ça dépasse mon imagination. Ça dépasse, eh bien, notre conception humaine. Mais Dieu va lui donner aussi les dimensions, vous lirez, la précision de Dieu. Parce que Dieu connaît tout. Imaginez que Noé aurait fait à sa guise. Mais au moment, frères et sœurs, où tous les animaux viendraient, ce serait quoi ? Le naufrage. Mais Noé a construit suivant les dimensions que Dieu lui avait données. Et avec le matériau que Dieu lui avait dit. Frères et sœurs, il est écrit quoi dans les Corinthiens ? Que chacun bâtit à sa manière. Quel est le fondement ? Quels sont les matériaux qui bâtissent ta vie chrétienne ? C'est à toi de répondre, c'est pas à moi. Est-ce que c'est avec du bois, de la paille, du chaume ? Tout ça, un jour, sera brûlé. Et frères et sœurs, le Seigneur m'a montré que durant le Covid, bien que j'avais mis, vous voyez, même des serviteurs de Dieu ont été, j'étais trompé. Des hommes qui avaient une position dans l'Église me disaient ça, c'est quelqu'un. Je ne vois, l'homme ne regarde que l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Et pendant le Covid, Dieu m'a montré, il m'a dit, tu vois celui-là ? Non, tu t'es trompé. Où est-il maintenant ? Il est dans les choux. Quand je le visite, parce que je garde toujours un contact, je suis un berger. Je l'aime, et je lui dis, mais mon frère, moi je t'aime. Mais reviens à la maison, reviens à l'assemblée. Non, mon frère, moi, c'est sur les écrans. Je regarde à droite, je regarde à gauche, ça me fait du bien, je dis, niette. Où est la communion fraternelle ? Où est-elle ? Mais je prie quand il prie. Je chante quand, eh bien, il y a le chant que je connais. Je dis non. Ça, c'était bien sûr, pendant un temps. Parce qu'il y a eu les autorités qui nous ont imposé. OK. Mais maintenant, tu es libre. Et même si tu ne veux pas, tu peux mettre le masque et avoir la distanciation dans l'assemblée. Mais Dieu t'attend là. La subtilité, frères et sœurs. Mais il dit, mon frère, mais j'ai toujours la paix et la joie. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu es le pantin du diable. Parce que si tu n'es pas dans la maison de l'Éternel, comment Dieu peut te bénir ? La communion, qu'est-ce qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres ? Ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils se réunissaient ensemble. Malgré la persécution, frères et sœurs. Et c'est, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y a des églises au Népal, il y a des églises en Algérie qui sont fermées, qui sont brûlées, des chrétiens qui sont mis en prison, en Corée du Nord, etc., etc. Oui, mais ils se réunissent. Il y a encore aujourd'hui où le diable agit. Subtilement dans nos pays. Mes frères et sœurs, je lui dis, mais quand Jésus viendra, est-ce que tu seras pris ? Ben, je pense. Ah. Ah bon ? Mais si tu dis tu penses, c'est qu'il y a des ombres d'ombre. C'est oui ou c'est non ? Avec Jésus, il n'y a pas de neutralité. Hein. Tu es sauvé ou tu es perdu. Il n'y a pas d'antichambre. Il n'y a pas d'antichambre. Alors je lui ai dit, mon frère, reconsidère ta vie. Moi, c'est vrai que je voyais en toi un pilier avant ce problème du Covid. Mais Dieu m'a montré que ce pilier n'était qu'une façade. Dieu connaît, frères et sœurs, les cœurs. On peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Et si Dieu m'a ouvert les yeux, c'est pour eh bien, vous montrer que ce n'est pas à la façade que Dieu regarde, mais c'est au cœur. Seigneur, comment je suis devant toi. Vous savez, tous les matins, mesdames, vous regardez sur, hein, au miroir, hein, moi aussi. Hein, et si le nez un peu noir, on l'efface, hein, on essaye. Hein, ou si, hein, c'est vrai, la parole de Dieu est un miroir. N'essayons pas dire comme... Hein, la reine avec Blanche-Neige et les sept petits nains miroirs, qui est la plus belle ? Hein ? Non, Seigneur, c'est ta parole, parce qu'un jour je serai devant toi. Et frères et sœurs, c'est vrai que
Eh bien, au travers, vous voyez, au travers de ces problèmes que nous avons connus, Dieu fait déjà l'épuration. Et je dis, mon frère, les portes de l'église sont ouvertes, les bras du Seigneur sont... Ta place, elle est là. Parce que je lui ai dit une chose, c'est que quand tu vas dans les grands magasins faire tes courses, tu y vas, tu ne connais pas ces gens-là qui ont peut-être eu le Covid ou ce qu'ils ont le Covid, tu ne sais pas. Oui, mais je me protège. Ok ? Ben, je dis, mais tu peux faire la même chose. Et là, ce sont tes frères et tes sœurs. Frères et sœurs, examinons-nous. Non pas avec notre règle, non pas avec nos conceptions, non pas avec nos idées, mais avec ce que la parole de Dieu nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit. Vous savez, on peut toujours trouver des excuses, toujours. Mais est-ce que ces excuses sont valables devant le Seigneur ? Bien sûr, si on est souffrant, si on travaille, etc., bien sûr, on ne peut être. Mais, quand nous le pouvons, soyons. Alors, c'est vrai que pour Abraham, cette fidélité, et Noé a construit cette arche, ça a pris du temps. Il y a eu les moqueries. Et aujourd'hui, frères et sœurs, le diable se moque. Il essaie par tous les moyens. Mais qu'importe, la relation est très importante. Parce que la Bible dit que Noé était le prédicateur de la justice. Et chaque soir, je peux m'imaginer que rentrant dans sa chaumière, avec son épouse, ses fils et ses belles-filles, il priait ce Dieu de leur donner la force pour le lendemain de renouveler leur force physique, morale et spirituelle, malgré les colibets, malgré les moqueries de ces gens qui étaient là à l'extérieur. Noé, qu'est-ce que tu fabriques ? On n'a jamais vu une arche. Dieu va détruire la terre. Mais attends, Noé, tu commences à dérailler, etc., etc. Mais Noé avait quoi ? Un contact avec Dieu. Mon frère, ma sœur, nous sommes des conquérants. C'est nous qui devons influencer le monde et non pas l'esprit du monde qui doit nous influencer. Et aujourd'hui, combien de jeunes se laissent influencer par l'esprit du monde ? C'est l'esprit, le Saint-Esprit qui doit nous influencer. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui doit nous influencer. Et combien aujourd'hui sont prêts à accepter cela ? Mais l'intelligence artificielle vient de qui ? Ben, de l'être humain, qui lui va former, va dicter, etc., etc. Les robots, frères et sœurs, mais n'ont pas d'âme, n'ont pas de cœur, ne respirent pas. Ils feront ce que toi, tu vas leur demander de faire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont programmés. Et ça, c'est humain, c'est diabolique. Mais le Saint-Esprit veut te faire monter plus haut. Monte plus haut. Et frères et sœurs, quand le moment est venu, les animaux sont venus. Ce n'est pas Noé qui les a appelés. Mais c'est Dieu. Alors c'est vrai que nous vivons ces temps. La troisième chose, c'est qu'il est persévérant. La persévérance dans l'obéissance. 3 jours après, pendant 3 jours, ils ont marché. Le chemin, frères et sœurs, le cursus de Dieu, c'est vrai que vis-à-vis de notre corps physique, de notre orgueil, de ce que nous sommes encore, est difficile. Mais Paul pourra dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus Paul, mais c'est Christ qui vit en Paul. Amen. Amen. Martin Luther disait quoi ? Chaque jour, je me reconvertis. Pourquoi ? Parce que l'ancienne nature veut reprendre le dessus. L'ancienne nature, c'est comme un bouchon. Vous savez, quand vous prenez un bouchon de liège, vous mettez votre main dans un seau d'eau, eh bien, ok. Mais si vous enlevez votre main, le bouchon de liège va remonter. Et notre chair, avec tout ce qui est là, les aspirations mauvaises, veut reprendre le dessus. Parce que la Bible dit que la chair n'héritera pas du ciel. Hein. Et frères et sœurs, oui, les conséquences de la chair, l'ignominie, l'orgueil, prétention, etc., etc., ce sont les œuvres de la chair dont le diable, eh bien, se sert. Trois jours, l'image de la Trinité. Nous sommes une triunité, corps, âme, esprit. Jésus était trois jours et trois nuits dans le tombeau. Jonas, trois jours dans le ventre du poisson. Oui, trois. Et ça montre quoi? C'est que, frères et sœurs, eh bien, le Seigneur désire que nous persévérons. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je veux monter sur la montagne, là où je rencontrais Dieu. Et ils ont monté à la montagne que Dieu leur avait montrée. C'est pour cette raison, frères et sœurs, Paul dira aux Éphésiens, l'armure spirituelle et chaussures que donne le zèle de ta parole. Le zèle, les chaussures. Est-ce que tu as les baskets Nike? C'est vrai, souvent on voit, hein? Des belles chaussures avec des belles enseignes. Mais ces chaussures s'usent. Tandis que les chaussures du Seigneur, elles ne s'usent jamais. Amen. Et Dieu connaît ta pointure. Dieu connaît ta pointure. Comme il connaît le nombre de tes cheveux. Il prend soin même d'un petit oiseau qui tombe de son nid. À combien plus forte raison prendra-t-il soin de ta vie, parce que désormais tu lui appartiens. Amen. Peux-tu lui dire, Seigneur, merci parce que je t'appartiens? Est-ce que vous lui dites cela? Merci, Seigneur, parce que je suis ton enfant. Et même si je ne comprends pas tout, Seigneur, je sais que je peux te faire confiance. Parce que toi, tu me conduiras toujours dans le bon chemin. Alors, frères et sœurs, ça montre quoi? C'est que Isaac, qui n'était plus qu'un bébé, c'était un jeune homme. Isaac, c'est l'image de Jésus. Image de Jésus qui était soumis à Abraham, son père. Abraham, image du Père céleste. Une préfiguration d'un temps passé qui vont devenir présentement pour nous aujourd'hui. Et la Bible nous dit ceci dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8 nous dit ceci. Ayez en vous, qui êtes en Jésus-Christ, ayez en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ, lequel, en existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ces sentiments qui étaient en Christ, Seigneur, je veux, eh bien, les avoir. Parce que même si toi, tu es Dieu, tu as pris la forme humaine et tu as été obéissant jusqu'à la mort. Ça ne veut pas dire que Jésus était désobéissant, mais il s'est soumis à la volonté de son Père. C'est pour cette raison, dans la prière, frères et sœurs, que Jésus a instituée, « Notre Père, que ta volonté soit faite. » Dans les églises aujourd'hui chrétiennes, on récite cela. Mais est-ce que nous réalisons la profondeur et l'importance de ce que nous récitons. Que ta volonté soit faite. Est-ce que Dieu peut faire sa volonté en moi? Est-ce que, Seigneur, tu as la primauté? Est-ce que tu peux me dire, ça c'est niette, ça c'est pas bon, ça c'est bien, continue? Est-ce que nous le permettons? C'est ça, la sensibilité. Parce que, frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous soyons déçus quand il saura, quand nous serons devant lui. Parce que Jésus dira, je ne vous connais pas. Comment? Le Seigneur en a fait ci, on a fait cela, on a fait... Bon, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Oh, mais Seigneur, tu t'es trompé. Comme, frères et sœurs, Anania, dans le livre des Actes des Apôtres, où le Seigneur, eh bien, va interpeller son disciple Ananias. C'est vrai qu'il y a sur le chemin de Damas ce Saul de Tarse, cet homme orgueilleux, prétentieux, vaniteux, meurtrier. Bien sûr, il a été appris au pied de Gamaliel dans des écoles rabbiniques. Il a reçu une éducation pharisaïque à fond. Et la haine dans son cœur, c'est de détruire, eh bien, tous ceux qui croient en la personne de Jésus, la doctrine. Alors, bien sûr, il a eu des lettres, des laissés-passer, pour, eh bien, aller dans tous ces villes et villages, eh bien, dire, voilà, moi, je viens pour enfermer hommes, femmes, enfants, etc., etc. Mais je peux m'imaginer, c'est que l'Église de Jésus-Christ priait. Seigneur, arrête cet homme. Arrête-le, fais quelque chose. Seigneur, nous t'en supplions. Et frères et sœurs, nous ne savons pas le temps que ça a mis. Mais il y a une chose, mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que toutes tes prières, quelles qu'elles soient, Dieu les récupère dans des couples d'autres. Même si tu ne comprends pas, Dieu a entendu et va répondre au temps opportun. Mais sois à son écoute, ne te détourne pas de lui. Le diable dira, mais tu vois, ça fait tant et tant d'années que tu pries. Si je vous dis cela, c'est parce que je l'expérimente aussi. De tant d'années, on prie pour tel et tel, même un membre de notre famille, et on ne voit rien. Seigneur, je vois rien. Et souvent, le Seigneur nous dit, mais toi, tu vois rien humainement, mais moi, je connais son cœur. Ah. Alors là, je m'écrase. Je dis, c'est vrai, tu as raison, Seigneur. Parce que le Seigneur connaît le chemin des cœurs. Nous, on voudrait qu'ils se convertissent tout de suite. Non, Dieu a son temps. Peut-être faut-il encore qu'ils, excusez-moi l'expression, mordent de la poussière, connaissent des problèmes, des difficultés pour un jour crier à Dieu. Mes frères et sœurs, prions pour nos bien-aimés. Et peut-être même que vous ne le verrez pas. Mais, durant votre service d'ensevelissement, là, ils se convertiront, ou peut-être après. Combien j'ai vu. Que pendant, eh bien, la période où les parents chrétiens priaient pour leur enfant, niette. Mais c'est au moment où il y a eu ce cercueil, où on disait au revoir, que quelques temps plus tard, ce jeune homme, cet homme ou cette femme se sont convertis. Et me disait, pasteur, c'est au travers de leur témoignage. Vous savez, il y a des fois, on tombe des nues. Des fois, on dit, bah, paf, hé eh. Ouais. Eux suppliaient, souvent, ensemble, on priait avec ce couple pour lui ou elle. On ne voyait rien. Et souvent, je disais, mon frère, ma sœur, soyez en paix. Dieu a entendu ce que nous lui avons demandé et il va agir. Parce que Dieu est jaloux de sa parole. Dieu est jaloux et Dieu veut le sauver. Et souvent, je leur disais, vous savez, excusez-moi l'expression, il faut peut-être qu'il mange un peu plus de la viande enragée. Il faut qu'ils connaissent un peu plus de problèmes dans leur foyer. Vous savez, il y a des fois... Et c'est vrai. Mais quand ils se sont convertis, quand j'ai eu une rencontre avec eux, ils m'ont dit, pasteur, c'est leur témoignage, leur fidélité, leur droiture. Et notre cœur, petit à petit, c'est comme un oignon, vous savez, et toutes les éplures ont été dégagées pour aller au cœur. Dieu connaît le chemin. Dieu a son temps, hein. Ils ne l'ont pas vu qu'ils se convertissent. Mais un jour, ils le verront dans le ciel. Alléluia! Et ma parole ne retourne pas à moi sans avoir produit son effet. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Alors, mon frère, ma sœur, oui, Abraham, type du Père, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 32 nous dit ceci. Romains 8, 32. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Comment Dieu ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Abraham n'avait rien à se justifier, il n'avait qu'à faire la volonté de Dieu. Et nous voyons quoi? L'exemple d'Abraham, image du Père. Et frères et sœurs, la foi, c'est obéir à Dieu totalement. Alors, dans l'obéissance, dans cette foi active, il y a les bienfaits. Il y a les bienfaits, il y a les bénédictions. C'est quoi? C'est que comme récompense à son obéissance, Abraham a eu la joie d'épargner son fils. Par notre obéissance, frères et sœurs, et par notre dévotion, nous sauverons notre âme, mais aussi celle de ceux et de celles qui nous écoutent. Nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par la foi qui est agissante. Amen. Par mon obéissance, je sauverai mon âme, mais aussi celle de ceux et de celles qui écoutent. Parce que, frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par l'obéissance. La deuxième chose, c'est que Abraham expérimente la fidélité de Dieu qui va pourvoir dans un bélier. Qui aurait imaginé que Dieu déjà avait prévu dans le buisson un bélier? Qui? Abraham, niette. Il a construit l'autel, il a mis le bois, il a mis, eh bien, son fils, et au moment, eh bien, où il veut agir, il y a la voix de Dieu, stop, et Dieu prévoit. L'image de quoi? De la substitution. Frères et sœurs, la fidélité de Dieu va au-delà de tout ce que nous pouvons penser, concevoir. Dans le deuxième livre des rois, le temps passe, hein. Deuxième livre des rois, regardez. Au chapitre 4, verset 1er, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vaches et tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre.
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses enfants, eut lui présenté des vases et elle versait. Elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » C'est beau, hein? Situation, frères et sœurs, désastreuse. Le créancier vient chercher les deux enfants. La femme, épouse du serviteur de Dieu qui est décédé. Elle n'a pas de quoi payer le créancier. Il va venir chercher ses enfants pour faire des esclaves. Mais il y a l'homme de Dieu. Et elle va le voir et lui dit, voilà ce qui se passe maintenant dans ma famille. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma sœur? Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, peut-être, ce matin, qu'un cœur fatigué de souffrir. Je souffre. Tu connais la peine de ta servante, de ton serviteur. Tu connais mes incompréhensions. Tu connais mes points d'interrogation. Tu sais où j'en suis. Tu sais que j'essaie de me débattre et que je n'y arrive point. Seigneur, tu sais tout. Le Seigneur veut nous te mettre à nu. Ouvre ton cœur, ne résiste pas. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Je n'ai qu'un peu d'huile. Un peu d'huile. Cela ne suffit pas pour payer le créancier. Le diable veut que tu payes. Mais le Seigneur, là le prophète lui dira, sors. Prends position et va demander à toutes tes voisines des vases. Le diable veut que tu restes dans les chaînes dans lesquelles il t'a lié, que tu restes dans la timidité, que tu restes dans la crainte, que tu restes, eh bien, dans l'impuissance. Le diable veut te garder sous sa coupole. Mais le Seigneur est là pour te faire sortir. Et cette femme a dû sortir de sa chaumière. Va demander à toutes tes voisines des vases. Et n'en demande pas un petit peu. Frères et sœurs, je peux m'imaginer un moment que cette femme, en repartant eh bien, de ce prophète, s'est posée de nombreuses questions, mille et une questions. Comment vais-je être reçu par mes voisines, par mes amis? Qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question? Pourquoi tous ces vases, etc., 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 etc. Vous savez, le diable essaiera toujours de te freiner, de t'arrêter. Toujours. Mais elle y est allée. Imaginez, elle a frappé à une porte. Sa voisine lui dit, alors comment vas-tu? Donne-moi des vases. Combien tu en as? Oh, ben, j'en ai deux, trois. Donne-moi-les. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, tu verras plus tard. Allez, allez, donne. Deux, trois, donne une autre, etc., etc. Mais ça a duré un certain temps. La Bible ne nous dit pas le temps. Le temps appartient à Dieu. Et quand elle a peut-être eu assez de vases à elle, dans son objectif, elle a dit maintenant à ses fils, hop, on ferme la porte. Et là, on va verser. Que nous dit la Bible dans le Nouveau Testament? Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, prie ton Dieu. Mon frère, ma sœur, quel que soit le nombre de tes vases vides, le Seigneur veut les remplir de tous les dons nécessaires pour l'édification de son peuple. Alléluia! Amen! Oui. Pas seulement un,
Imaginez mes frères qui avaient peut-être des arbres fruitiers ou ma sœur, qu'il y a seulement qu'une pêche ou une cerise à un arbre. Et vous serez déçus, hein? Ouh, oh, 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 oh. Cet arbre ne donne qu'une cerise, oh là là! Ouh, ce poirier, une poire, ou ce pommier, non! Ce qu'on veut, c'est qu'il soit rempli.
Amen.
Oui, l'abondance. C'est vrai que cette femme peut-être a mis un certain nombre de vases, on ne sait pas, mais qu'importe. Elle en a eu assez pour payer au centenier et en plus, elle avait de quoi survivre et vivre. Frères et sœurs, la bénédiction de l'Éternel est au-dessus de ce que je pense et de ce que je conçois. Alléluia! Amen! Mais Dieu demande que je puisse eh bien, m'impliquer. Dieu demande que je puisse sortir. Dieu demande que je puisse lui dire. Parce que tant qu'elle restait dans sa situation, rien ne se passait. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que dans quelques instants, nous allons prendre le repas du Seigneur. Jésus n'a pas regardé la croix, mais il est allé sur la croix, afin que nous, aujourd'hui, nous serons délivrés, alléluia. Et qu'un jour, eh bien, comme il le dit, nous puissions le prendre avec lui, dans le royaume. Non pas seulement nous, mais tous ceux qui attendent son avènement, amen. Frères et sœurs, cela doit nous réjouir de savoir qu'un jour nos yeux verront Jésus.
Amen.
Et cette femme remplissait, ses deux enfants étaient là. Imaginez la joie. Hey, donne-moi encore. Il n'y en a plus. Vous savez, je vais vous donner un secret. Quand je serai dans le ciel, j'irai voir cette femme et je dirai combien tu as eu, combien de vases tu as eu de tes voisines. Vous savez, j'ai des questions, hein. Parce que dans le ciel, frères et sœurs, on ne sera pas là en train de tourner nos pouces, hein. Non. Nous aurons des activités.
Amen.
Ah oui. Mais aujourd'hui, nous sommes en préparation de ces activités. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes.
Amen.
Oui. Souvent, nous, on veut, Seigneur, donne-moi de grandes choses, je te serai fidèle. Ça ne marche pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Vous savez, à un enfant, on ne le donne pas tout de suite le bac. Hein. Il y a tout un processus. Il y a des écoles. Hein. Il faut qu'il commence à écrire, à compter, etc. etc., etc., etc. Hein. Seigneur, Seigneur, ce matin, tu sais où j'en suis avec toi. Dans ce cursus, tu sais où j'en suis. Et je te bénis parce que tu veux m'élever. Alors, frères et sœurs, il y a encore d'autres choses, on verra ça plus tard.
Amen.
Et que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur pour le substitut. Tu es cet agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, mon péché. Merci, merci Père, parce qu'en Jésus j'ai tout. Merci pour cette huile du Saint-Esprit. Merci parce que ce matin, comme nous l'avons chanté, un cœur à cœur avec toi. Et ce matin, Seigneur, ton cœur est là. Non pas pour, eh bien, me donner le jugement, mais pour me relever. Merci parce que tu as subi le jugement. Merci parce qu'à la croix du calvaire, tu as tout accompli. Merci, Seigneur, pour ce pain. Merci pour cette coupe. Merci pour eh bien, cette table dressée en face de nos ennemis. Amen. Et ce matin, je le prends avec joie, avec spontanéité et avec allégresse. Et j'invite celui et celles qui ont part à ce repas à se lever. Et aux frères eh bien, qui doivent la distribuer à se lever. Et frères et sœurs, pendant la distribution du pain de la coupe, remercions le Seigneur. Remercions. Adorons Jésus. Bénissons. Hallelujah.